Radio Okapi. Okapi.
Okapi service avec Marcel Ngombombala. Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Quelle est l'importance de micro-centrales hydroélectriques en RDC? Nous en parlons dans la première partie de ce magazine avec nos deux invités, Jules Kikanda, coordonnateur du projet de promotion de mini et micro-centrales hydroélectriques au programme des Nations Unies pour le développement PNUDANSIV. Et il y aura également ingénieur Idriss Moufouka, qui est point focal du projet de promotion des mini et micro-centrales hydroélectriques en RDC à l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP en sigle. Dans la deuxième partie, après le flash de 11h heure de Kinshasa, on va parler des douleurs lombaires, cause, traitement et moyens de prévention avec le docteur Meya Kiala. Il est expert en maladies dégénératives de la colonne vertébrale. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ces jours. Jason Siala est à la mise en onde. Célestine Massoudi coordonne et réalise ce magazine présenté par Marcel Ngombombala sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Oh Mario,
tout le monde
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Et voilà, c'est parti pour le magazine Okapi Service de ce jour avec ses premiers sujets sur quelle est l'importance de micro-centrales hydroélectriques en RDC. Plus de 80 mini-centrales hydroélectriques se trouvent à l'état d'abandon sur l'ensemble du territoire national. L'absence d'une main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs ne facilite pas le bon fonctionnement de ces barrages avec comme conséquence des arrêts brusques et intempestifs de la production du courant électrique qui est bénéfique pour les communautés locales. Alors face à cette situation, le programme des Nations Unies pour le développement PNUDANSIV et l'Institut National pour la promotion, pour la préparation professionnelle NPP ont mis en place un vaste projet de promotion des micro-centrales hydroélectriques sur l'ensemble du territoire national. Quel est l'impact de ce projet sur les vécus quotidiens de communautés locales? Je le disais dans le sommaire de ce magazine, on va en parler avec nos deux invités. Il y aura d'abord Jules Kikanda qui est coordonnateur du projet de promotion des mini et micro-centrales hydroélectriques au programme des Nations Unies pour le développement. On l'aura tout à l'heure en signe. Je rappelle, si vous êtes intéressé par ces sujets et vous voulez réagir, n'hésitez pas, vous pouvez composer les 099-706-6394 ou encore les 081-890-6394. Il y a également la page Facebook Okapi Service. Et déjà, merci à tous ceux et toutes celles qui ont réagi sur la page Facebook Okapi Service par rapport à ces sujets. Il y a également l'adresse service@radiookapi.net. Vous pouvez également réagir sur cette page pour parler de vos préoccupations par rapport à ces sujets sur l'importance de micro-centrales hydroélectriques en RDC. Bientôt, nous aurons nos deux invités qui vont essayer de nous expliquer l'importance justement de ces micro-centrales hydroélectriques en RDC. Il y a déjà le premier Jules Kikanda qui est en ligne. Bonjour Jules Kikanda.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'importance des microcentrales hydroélectriques en RDC. Vous êtes coordonnateur du projet de promotion des mini et microcentrales hydroélectriques au programme des Nations Unies pour le développement. Alors, parlons-nous d'abord de ce projet, des mini et microcentrales au niveau du PNUD.
Merci, messieurs les journalistes, pour la parole. Au fait, les projets de promotion des mini et micro centrales hydroélectriques, je vais porter un petit rectificatif par rapport à ce que vous avez dit.
Oui.
C'est un projet du gouvernement de la RDC qui est appuyé par le PNUD et ses partenaires. Au fait, ce projet a été mis en place compte tenu de la situation, de l'observation, du fait que le taux d'accès à l'électricité de la République est très faible, et particulièrement en milieu rural, pour lesquels le taux d'accès est de moins 1%, donc de moins de 1%. Moins de 1% de la population vivant en milieu rural en RDC n'a pas accès à l'électricité. Or, comme vous le savez, plus de 65% de la population congolaise vit en milieu rural et périurbain. Et donc, on peut considérer que plus de 65% des Congolais n'ont pas accès à l'électricité. En fait, ce projet, je crois que c'est un projet qui s'est basé sur des opportunités qui se sont présentées. La première opportunité, c'est que le secteur de l'électricité venait d'être libéralisé depuis 2014. Et une autre opportunité, c'est que partout, dans tous les villages de la RDC, on peut trouver des ressources hydroélectriques, on peut trouver des rizières. D'une autre part, vous savez que la construction des centrales, des grandes unités de production, ça prend beaucoup de temps. Mais lorsqu'on a des petites unités de production, ce que nous appelons des mini et micro-centrales hydroélectriques ici, ça prend moins de temps, en moyenne une année. C'est pourquoi on a pensé que la solution, une des solutions pour essayer de résoudre ce problème d'accès, du taux d'accès à l'électricité faible en RDC, c'était de promouvoir des petites unités de production. Donc promouvoir les mini et micro centrales hydroélectriques, les déployer partout dans tous les milieux ruraux en RDC, et cela peut permettre de résoudre tant soit peu ce problème d'accès à l'électricité en milieu rural.
Alors, au stade actuel, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces projets? Il est déjà en train d'avancer, ou bien c'est encore sur le plan des études, mais il avance déjà?
Oui, le projet, pour le moment, le projet est en train d'avancer.
Oui.
Donc, le projet n'est pas seulement pour... parce que, comme on l'a dit, c'est un projet de promotion des mini- et micro-centrales hydroélectriques en RDC. Et donc, le projet avance. Pour le moment, il y a déjà 3 microcentrales hydroélectriques que nous avons déjà appuyées. Donc, la première microcentrale hydroélectrique a été construite à Bitale. À Bitale, c'est dans la province du Sud-Kivu. Une microcentrale hydroélectrique de 85 kW et qui permet d'électrifier des cités à Bitale. Il y a une autre microcentrale hydroélectrique qui a été construite à Massissi, dans le territoire de Massissi, et qui est en train d'alimenter en énergie des cités. Il y a Massissi et Louchébert. Louchébert, ce n'est pas encore, mais c'est en perspective. Il y a aussi une microcentrale hydroélectrique que nous avons soutenue à Idjoui, mais là, ce n'est pas pour la population, mais c'était pour alimenter un complexe économique des unités de transformation. Et pour le moment, nous allons bientôt, et d'ailleurs c'est déjà publié, la construction d'une microcentrale hydroélectrique sur le site d'Nganza. Nganza, c'est au Kasaï central, c'est à la périphérie de Kananga, mais aussi on va installer une hydroquest Reva, une hydrolienne, sur la rivière Lukeni pour électrifier la cité de Kole. Et en même temps, le projet avance, nous sommes en train de mobiliser les financements pour, et en même temps, inviter les partenaires ou bien les investisseurs publics et privés pour et s'intéresser aux petites unités de production d'électricité.
Alors là, c'est déjà très bon, mais en tout cas, selon nos sources, il y a plus de 80 mini-centrales hydroélectriques qui se trouvent à l'état d'abandon sur l'ensemble du territoire national. C'est simplement qu'il y a une absence de main-d'œuvre. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation, de manière à ce que les micro-centrales qui vont être installées cette fois-ci ne puissent pas souffrir de manque de main-d'œuvre?
Effectivement, nous sommes au courant de cette situation et c'est l'un des objectifs du projet. Et c'est mettre à disposition une masse critique en termes de compétences au niveau du pays. Ce n'est pas seulement les centrales qui sont à l'arrêt, mais aussi parmi les centrales aussi, les micro-centrales que nous-mêmes nous avons construites à Bitale. 3 mois après la mise en service de la micro-centrale de Bitale, et les circuits d'excitation de la micro-centrale étaient brûlés et on s'est rendu compte tout de suite que c'est par manque de personnel qualifié. Donc l'électricien qui était chargé d'exploiter la micro-centrale n'était pas qualifié, n'avait pas toutes les compétences nécessaires. C'est pourquoi, dans les mêmes ordres d'idées, dans le cadre du projet, nous avons pensé à la mise à disposition du pays et dans toutes les provinces de la RDC d'une masse critique en termes de compétences. Comme vous le voyez, c'est un projet de promotion. Nous sommes en train de mobiliser les investissements publics et privés. Mais si les investisseurs doivent venir pour construire des centrales, des micro-centrales, ils doivent aussi trouver une main-d'œuvre qualifiée, les hommes de métier, pas seulement les ingénieurs, mais aussi les hommes de métier qui peuvent accompagner ces investissements. Et vous savez, et comme je venais de le dire, une micro-centrale hydroélectrique que nous-mêmes nous avons construite a eu des problèmes. Donc j'imagine que cela a été le problème pour toutes les autres unités de production qui sont à l'arrêt maintenant. Et c'est dans ce cadre que dans le cadre du projet, il y a eu cet accord de collaboration. Parce que oui, le projet est mis en œuvre, il faut le noter, par le secrétariat général à l'énergie, qui est le partenaire de mise en œuvre de ce projet. Et dans le cadre de ce projet, il y a eu une collaboration, un accord de collaboration entre l'Institut national de préparation professionnelle et le secrétariat général à l'énergie dans le cadre de ce projet pour essayer de résoudre ces problèmes, de former des techniciens, de mettre à disposition du pays des compétences, une masse critique. Dans nos termes, nous parlons d'une masse critique en termes de compétences à travers les pays.
Voilà. Puisque vous avez évoqué cette collaboration avec l'Institut national des préparations professionnelles, nous aurons également, au cours de ce magazine, notamment par rapport à ces sujets, sur l'importance de micro-centrales hydroélectriques en RDC, l'ingénieur Idriss Moufouka, qui est le point focal du projet de promotion de mini- et micro-centrales hydroélectriques en RDC à l'Institut national des préparations professionnelles. Il va nous rejoindre avant la fin de cette première partie du magazine Okapi Service. Si vous venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix, bienvenue à vous. Et si vous êtes intéressé par ces sujets sur l'importance des micro-centrales hydroélectriques en RDC, vous pouvez composer les 099 716 63 94 ou encore les 081 890 63 94.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Voilà, quelle importance des micro-centrales hydroélectriques en RDC. Nous en parlons avec Jules Kikanda, coordonnateur du projet de promotion des mini- et micro-centrales hydroélectriques au programme des Nations Unies pour le développement, PNUD dans sigle. Et avant d'avoir les premiers auditeurs, on va vite jeter un coup d'œil sur les réactions qui nous sont parvenues sur la page Facebook Okapi Service. Par rapport à ces sujets, nous avons cette réaction de François qui nous écrit... Il n'a pas précisé. Voilà, qui nous écrit depuis Kananga, il nous écrit ceci. Un bon projet à l'entendre, mais sur le plan pratique, nous avons constaté que beaucoup de projets au Congo commencent bien au cours d'exécution. Il y a un arrêt sans motif valable. Ce qui est vrai, plus de 70% de la population congolaise vit sans électricité. Et tous avons besoin d'électricité. Mais à mon avis, ces mini-centrales hydroélectriques ne sont pas efficaces vu le nombre de la population et a besoin du courant. Prenons l'exemple d'une ville comme celle du Kananga où on nous installe une micro-centrale hydroélectrique. Et à quoi cela servirait? Dont le projet serait dans le coin... Le projet est bon pour les coins à moindre densité de la population, mais dans les grandes villes, nous avons besoin des barrages pouvant produire un courant efficace. Et comment réagissez-vous, Jules Kikanda, à ces propos de François qui nous a écrit depuis Kananga sur la page Facebook Okapi Service?
Merci beaucoup. Nous remercions François pour l'intérêt qu'il porte vraiment à ces ce thème et son observation est fondée. Mais ce que nous devons préciser ici, c'est que les microcentrales hydroélectriques à elles seules ne peuvent pas résoudre les problèmes d'accès à l'électricité au pays. Ça, il faut que ça soit clair. Mais par rapport à ce que nous avons dit, les microcentrales hydroélectriques présentent un avantage. Leur développement est rapide, d'abord. Et ici, nous avons bien parlé des milieux ruraux et périurbains. Nous avons dit que plus de 65% de la population vit en milieu rural et périurbain. Or, nous savons tous, et ça, nous n'allons pas le développer ici, qu'on ne peut pas parler électricité sans, de développement sans électricité. On ne peut pas parler de développement sans électricité. Alors, les microcentrales hydroélectriques sont très, très importantes, vous le savez, parce que dans un milieu rural, vous savez les caractéristiques qu'il y a, l'agriculture, l'élevage, la pêche, et tout cela nécessite des transformations, nécessite la conservation. Or, vous savez, pour conserver, nous avons besoin de l'électricité. Pour transformer, nous avons besoin de l'électricité. Et pas seulement par rapport aux aspects économiques, comme nous venons de le dire, mais il y a aussi les aspects purement éducationnels par rapport aux écoles. Les écoles ont besoin de l'électricité, par exemple, pour que les élèves étudient dans de bonnes conditions. Vous savez, avec l'évolution de la technologie actuellement, un élève qui étudierait qui terminerait ses études sans avoir vu un ordinateur, et je crois que la formation ne serait pas très complète. Mais avec l'électricité, on a la possibilité d'utiliser cette nouvelle technologie dans l'éducation. Il y a aussi les centres de santé. Vous savez, l'actualité aujourd'hui avec la pandémie de COVID-19, on doit vacciner la population. Mais pour déployer ces vaccins ont besoin de chambres froides pour être conservés. Et que donc, même les milieux ruraux qui n'ont pas d'électricité ont besoin de cette électricité. Mais comment les faire rapidement? C'est avec des mini et microcentrales hydroélectriques. Mais nous sommes tout à fait d'accord que les mini et microcentrales hydroélectriques à elles seules ne peuvent pas résoudre les problèmes d'électrification en RDC. Mais par rapport aux problèmes auxquels font face les milliers ruraux aujourd'hui d'accès aux services énergétiques, ces microcentrales hydroélectriques peuvent permettre de résoudre tant soit peu ces problèmes.
Voilà, Jules Kikadon, vous garde encore en ligne. Il est temps pour nous d'accorder la parole à Jonas Kabinda, qui nous appelle depuis Kananga. Bonjour Jonas.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à l'invité et puis à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Merci de nous rejoindre Jonas sur la fréquence de la paix dans ce magazine Okapi Service. Alors quelle est votre préoccupation par rapport à ce sujet sur l'importance des microcentrales hydroélectriques en RDC?
Merci Monsieur Marcel. Avant de poser la préoccupation, je ferai une petite mise au point.
Oui.
Notre ville de Kananga, où je me trouve, ou le Kasaï central en général, c'est une province vraiment très noire. Nous vivons dans l'obscurité il y a beaucoup de décennies. Et comme vous le savez, il y a dans cette province la chute Katende, dont les travaux ont commencé depuis l'indépendance, l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais terminé ces travaux et la ville semble toujours dans le noir. Et maintenant, aujourd'hui, j'entends l'invité dire qu'il y a des projets de microcentrales hydroélectriques. Je suis en train de saluer l'initiative. Je salue vraiment cette initiative. Elle est la bienvenue. Mais le doute, comme mon professeur de Kananga l'a signé sur la page Facebook, le doute c'est que donc, ce micro-là, comme il l'a dit tantôt, ça va aider pour combien de temps? Parce que nous en avons le mauvais souvenir. Avec un gouverneur ici, il avait installé le micro central solaire. Je crois que les panneaux sont en train de chômer ou on les a volés, je ne sais pas moi, dans la résidence du gouverneur. Il nous a nourri des espoirs que ça va vraiment faire un bon travail. La ville sera électrifiée, il y aura des petites industries qui vont fonctionner, mais c'était vraiment, j'appellerais ça une opinion chimérique. Est-ce que ça pourrait être le cas avec le projet dont parle l'ingénieur? Je me demande. Et en plus, pourquoi, je demande à l'ingénieur, pourquoi ne pas, par exemple, appuyer les travaux de chute 4 parce que ces travaux-là demandent des moyens colossaux. Et ils sont déjà exécutés jusqu'à un certain pourcentage. Pourquoi, par exemple, pour les Kasaï centrales? Parce que j'ai entendu cibler la province avec la commune de Nganza. Pourquoi ne pas appuyer les travaux de chute 4ND pour que ça aboutisse? Parce que c'est une chute qui peut alimenter, je pense, non seulement la province du Kasaï central, mais aussi quelques provinces de l'Angola, et pourquoi pas Lualaba, ainsi de suite. Et au lieu de penser à un micro-central, pourquoi ne pas appuyer ces travaux-là afin que ça aboutisse? Et pour terminer, est-ce que nous pouvons savoir quelque chose sur les débuts des travaux du projet et la durée que ça peut prendre et les courants? Ça aura quelle capacité pour que peut-être ceux-là qui ont des industries puissent commencer déjà à se préparer? Du reste, nous saluons le projet, c'est bon, mais que l'invité puisse nous répondre à
merci. Voilà. Merci Jonas de voir appeler du Kadanga. Et à Kalemi, c'est David qui est en ligne. Bonjour David. David, vous êtes en ligne depuis Kalemi? Je crois qu'il y a un petit problème avec la ligne de David. On va le retrouver un peu plus tard. Donc c'est le site Bassoudi qui a la réalisation de ce numéro. Je pense bien qu'elle va tout faire pour retrouver David qui nous appelle de Kalemi. Et en attendant, on va poursuivre avec Jules Kikanda. Vous avez suivi Jonas, c'est vrai, comme son prédécesseur qui a réagi sur la page Facebook, on applaudit ce genre de produit, mais là, évoqué ces mini centrales hydroélectriques qui ont été construites à Kananga, mais qui finalement, apparemment, n'ont pas donné résultat. Alors, il aimerait savoir pour ces micro-centrales hydroélectriques qui vont être installées dans différents coins du pays, est-ce qu'il a lieu d'espérer que tout va bien se passer?
Merci, messieurs les journalistes. Merci beaucoup à Jonas à partir de Kananga. Bon, tout d'abord, vous l'avez dit, ici, nous n'allons pas parler des projets qui sont en cours ou en cours de réalisation parce que nous ne maîtrisons pas tous les éléments qui font à ce que ces projets soient interrompus à un certain temps. Voilà, nous pensons que nous ne pouvons pas avoir des éléments pour ça. Mais par rapport à ces projets dont il est question ici, nous avons été à Kananga. Nous avons même organisé un atelier avec toutes les parties prenantes. Nous avons visité la rivière Nganza et nous avons trouvé qu'il y a une micro-centrale hydroélectrique, mais trop petite puissance. Donc, c'est vrai, et nous pouvons le dire à M. Jonas que la micro-centrale hydroélectrique que nous voulons construire à Kananga ne va pas résoudre tous les problèmes d'électricité à Kananga. Et ce n'est même pas ça le but. Mais le constat, c'est que nous sommes arrivés à Kananga et nous avons trouvé une micro-centrale hydroélectrique de très petite puissance installée sur la rivière Nganza par M. Lewis, que je salue en passant. Et au cours même de l'atelier et dans les comités de pilotage, on a vu qu'on pouvait installer là-bas une micro-centrale d'une capacité un peu plus élevée. Parce que lorsque nous avons une micro-centrale hydroélectrique qui produit plus ou moins 10 kW et que nous pouvons installer une micro-centrale hydroélectrique qui produit plus ou moins 120 kW, oui, je crois que ça peut améliorer la situation. Mais le projet ici n'est pas vraiment dans le but de résoudre tous les problèmes d'accès à l'électricité dans la ville de Kananga, mais peut améliorer tant soit peu. Nous avons parlé de l'importance des micro-centrales hydroélectriques. Vous savez, la rivière, la Snell au niveau de Nganza, de Kananga, vous voyez, n'est pas loin du site où nous voulons développer la petite micro-centrale hydroélectrique. Et nous savons même que au niveau de la Snell, il y a des cellules d'attente. Alors ça sera une question qui sera résolue et au moment opportun sur les stratégies de distribution. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un temps très bref, ça c'est une micro-centrale hydroélectrique. Vous savez, des grandes installations, comme on est en train de le dire, ça prend du temps. Et lorsque nous avons introduit cette émission, nous avons dit l'importance des micro-centrales hydroélectriques, c'est que ça prend un petit temps. Bien que ce sont des petites unités de production, mais ça prend un temps raisonnable. Mais les grandes installations peuvent avoir des difficultés dans la mise en œuvre et ce qui fait à ce que les temps peut-être soient un peu rallongés lorsqu'on construit des unités de production d'électricité. Je peux me résumer en disant à M. Jonas que nous allons bientôt lancer, je crois, avant la fin de, disons, en début de l'an prochain, parce que l'appel d'offres est déjà en ligne pour, nous sommes en train de recruter, pas recruter, disons, sélectionner une firme pour la réalisation ou bien la construction de la microcentrale hydroélectrique sur la rivière Nganza à la périphérie de Kananga. Donc, si Monsieur Jonas connaît aussi des entreprises qui sont intéressées, les entreprises peuvent postuler. Et là, nous pouvons rassurer que la microcentrale hydroélectrique sera construite dans un temps record. Et puis une autre chose, une autre préoccupation, c'était de savoir ça sera de quelle capacité. Et ce n'est qu'une microcentrale hydroélectrique. Et ça dépend des moyens. Parce que j'ai entendu parler de soutenir les installations comme Katendi. Ça, ce sont de grandes installations. Mais nous sommes pour le développement, donc ça dépend des moyens. Et en fonction des moyens, nous avons voulu soutenir cette microcentrale hydroélectrique de Nganza avec une capacité de 125 kW seulement qui peut être distribuée soit directement, soit à travers la fenêtre. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette préoccupation. Je ne sais pas si j'ai rencontré la préoccupation de notre ami Jonas.
Voilà, je l'espère bien. Nous allons prendre notre auditeur qui est en ligne, ce maître Machaka, qui nous appelle depuis Lubumbashi. On va écouter maître Machaka. Maître Machaka, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et je crois que c'est un projet d'une importance capitale et c'est un projet à encourager. Et c'est un projet dont notre gouvernement doit en tout cas tout mettre mis en œuvre de sorte que ça soit réalisé. Parce que nous en avons tant suivi et voir les projets, mais leur concrétisation pose toujours problème. Espérons que ce projet ici, ça doit être soutenu par tout le monde. Et puisque ça doit lutter contre l'exode rural, monsieur le journaliste. Parce que vous savez, aujourd'hui, nos campagnes, en tout cas, sont abandonnées à leur triste sort. Avec ces projets pareils, ça doit, en tout cas, améliorer les coûts de vie de nos villageois. Et ça, ma préoccupation est la suivante. C'est de savoir est-ce que ces projets et cette énergie, lorsque ça sera concrétisé, les modalités de distribution, ça sera gratuite ou bien ça va se faire comment? Puisque si je pose cette question, c'est compte tenu de la situation financière de nos campagnards qui est trop minime, est-ce qu'ils seront en mesure, si ça sera payant, ils seront en mesure de supporter les coûts pour faire fonctionner ces projets ou bien ça sera comment? Voilà ma seule préoccupation que j'avais, monsieur le journaliste.
Voilà, merci à Maître Machaka. Jules Kikenda, comment réagissez-vous?
Oui, nous remercions Maître Machaka pour sa préoccupation, qui est une préoccupation vraiment fondamentale, qui concerne l'aspect gestion de ces des microcentrales. En fait, au niveau du projet, nous avons trois modèles d'affaires, trois business models. Donc, ce qui doit être retenu, c'est que les microcentrales hydroélectriques qui sont construites pour les gouvernements. C'est-à-dire chaque fois, je donne l'exemple que nous avons pour la microcentrale hydroélectrique de Bitali. Bien sûr, les PNUD de ses partenaires financent la construction de la microcentrale. Une fois que tout est prêt, les PNUD remet l'ouvrage au gouvernement provincial qui devient le propriétaire. Mais dans le cadre de l'accompagnement, disons, de la gestion, qu'est-ce que nous faisons? On encourage les partenariats publics-privés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut que le gouvernement provincial ici identifie un prestataire privé qui a les capacités techniques et financières pour exploiter l'ouvrage qui est construit. Alors, j'ai parlé des trois modèles d'affaires.
Oui.
C'est que le premier modèle, parce que vous savez, tout cela dépend de la capacité installée. Si la capacité est trop petite, la gestion est faite par un comité, un comité local d'électrification développement que nous appelons CLED, comité local d'électrification développement. Nous en avons l'expérience habitale et ça fonctionne bien et ils organisent effectuons des ateliers de renforcement des capacités pour essayer de donner des capacités un peu d'exploitation et de maintenance à ces comités locaux d'électrification et développement. Pourquoi on dit pour des petites unités? Parce que lorsqu'on doit identifier un prestataire privé, si la puissance produite est petite, vous savez que le prestataire privé doit payer les redevances de l'État, doit assurer l'exploitation, la maintenance, les paiements du personnel et les coûts peuvent sembler être supérieurs aux coûts. C'est pourquoi, pour des petites unités, nous encourageons la gestion par des petites unités, disons, des comités locaux d'électrification et développement, parce que c'est une gestion communautaire. Pour des puissances qui sont un peu plus grandes, de 100 kW ou bien 150, 200 kW, là, nous encourageons le gouvernement provincial à identifier un prestataire privé, bien sûr par appel d'offres, hein, qui a les capacités techniques et financières d'exploiter, bien sûr avec des contrats qui sont signés entre les prestataires privés et les gouvernements provinciaux. Et ça, nous encourageons cela, les partenariats publics-privés. C'est parmi nos objectifs dans les projets. J'ai parlé des trois modèles d'affaires. L'autre modèle, c'est pratiquement que nous avons des investisseurs ou bien des investisseurs potentiels qui ont des projets. On les appelle des porteurs de projets, qui ont des projets et qui ont besoin d'assistance technique. Dans ce cas, le projet intervient dans le cadre de l'assistance technique à ces porteurs de projets, mais ils sont propriétaires de leurs initiatives. Et la gestion, c'est eux-mêmes qui se chargent de la gestion. Voilà en gros ce que je peux dire par rapport à la gestion. Mais la chose importante à retenir là-bas, c'est que des unités qui sont développées, bien sûr, nous avons quelques fonds de bailleur pour construire ces microcentrales hydroélectriques. Et une fois que nous construisons ces microcentrales hydroélectriques, ça devient une propriété du gouvernement provincial. Il y a une remise vraiment et le gouvernement provincial devient le propriétaire.
Voilà, merci à Jules Cucane en tout cas de cet éclairage sur ce projet. Nous rappelons que vous êtes donc coordonnateur du projet de promotion des mini et micro centrales hydroélectriques au programme des Nations Unies pour le développement, PNUD dans sigle. Et vous avez également évoqué que vous travaillez en partenariat avec l'Institut National de Préparation Professionnelle et nous avons justement en ligne l'ingénieur Idriss Mofoka qui est point focal de ce projet au niveau de l'INPP. Merci d'avoir été de notre On espère vous retrouver prochainement. Au revoir, monsieur Jules Kikanda.
Au revoir, merci beaucoup, c'était un plaisir.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Si vous venez de vous joindre à nous sur Radio Okapi, c'est votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Nous parlons de l'importance des micro-centrales hydroélectriques en RDC et nous avons un deuxième invité en ligne par rapport à ces sujets. Ingénieur Idriss Mofoka, bonjour.
Cher Marcel.
Voilà, merci de nous avoir rejoints pour aborder ces sujets sur l'importance des micro-centrales hydroélectriques en RDC. Vous êtes point focal du projet de promotion des mini et micro-centrales hydroélectriques en RDC. Alors, nous avons suivi avec le premier invité, Jules Cucanda, qui est détenu. C'est un projet très, très intéressant. Il y a également des auditeurs qui ont réagi par rapport à ce projet. Alors, la question qu'on aimerait directement vous poser, quel peut être l'impact de ce projet sur le vécu quotidien des communautés locales?
Bien, il faut dire que, comme l'a dit le coordonnateur Jules, ce projet a un impact direct sur ces communautés. Premièrement, les communautés qui sont bénéficiaires de ces projets. Et comme vous le savez, le concept du développement communautaire actuellement nécessite l'implication des communautés locales qui sont bénéficiaires du projet. Et lorsqu'on parle de l'implication de ces communautés, et donc on fait allusion à la gestion. Et par rapport à cette gestion, il faut le transfert des compétences à ces gens. Donc, il y aura au-delà de la réduction de la précarité énergétique dans ces milieux, il y a également le transfert des compétences, c'est-à-dire les métiers qui seront développés dans ces communautés. Et deuxièmement, c'est comme vous le savez, l'électricité, c'est vraiment un outil de développement communautaire. Donc il n'y aura pas seulement l'éclairage, mais ça va booster également les petits commerces. Il y aura la création de petites unités génératrices de recettes, par exemple les petits dépôts de boissons, et l'agroalimentaire, la transformation et la conservation des fruits et tout comme ça. Et donc, ce projet va directement booster le développement intégral dans ces communautés. Oui.
Mais voilà, avant de prendre l'auditeur qui est en ligne, Glody Bouanganga, qui nous appelle, j'imagine, de Bandundouville, j'imagine, hein, la réalisatrice Célestine Massoudi va préciser. Alors, avant de prendre cet auditeur, selon nos sources, il y a plus de 80 mini-centrales hydroélectriques qui se trouvent à l'état d'abandon sur l'ensemble du territoire national, et c'est lié au problème de manque de main-d'œuvre. Est-ce que vous, au niveau de l'INPP, vous qui êtes point focal de ce projet, vous êtes au courant de cette situation et comment pensez-vous résoudre ce problème? Parce que vous êtes au niveau vous occupez de la préparation professionnelle.
Évidemment, nous avons mené des enquêtes sur le plan national. Et ce qui est vrai, il y a plus de 80 microcentrales qui sont à travers le pays. Mais 80% de ces microcentrales ne sont pas en bon état. Et faute de la main d'œuvre, parce qu'il faut dire que dans la plupart de ces milliers, il est difficile de trouver des professionnels de métier, donc des spécialistes. Déjà au niveau de la formation classique, il se pose un programme de formation des spécialistes de métier dans les domaines de l'hydroélectricité. Même pour ceux qui ont fait l'école d'ingénieur, les gens ont des connaissances générales. Alors, la particularité au niveau de l'INBP, parce qu'au-delà d'être chef, au-delà d'être point focal de ces projets, je suis le responsable du service des énergies renouvelables, où nous formons des spécialistes et des techniciens installateurs des microcentrales hydroélectriques, des techniciens fabricants de microturbines ainsi qu'efficacité énergétique. Et donc, il faut dire que le problème est réel. Donc, au-delà de la gestion de ces microcentrales d'une manière administrative, il y a aussi un problème du manque de la main-d'œuvre qualifiante dans ces milieux. Et c'est pour cette raison qu'avec la politique de formation de proximité au niveau de l'INPP, et nous sommes en train d'accompagner ces projets, faire en sorte que les communautés qui sont bénéficiaires de ces projets qu'ils soient impliqués effectivement dans la gestion de ces projets et en termes d'abord de maintenance, parce que le bricolage est à la base de beaucoup de problèmes avec les centrales, au-delà de la gestion, comme je viens de le dire. Mais un autre aspect, c'est l'implication de différents gouvernements provinciaux, parce qu'il faut noter, en vertu de la loi 14-11 qui régit le secteur de l'électricité, le gouvernement provincial est considéré comme un cadre institutionnel qui fait partie des gestionnaires de tous les ouvrages énergétiques qui sont implantés et dans des provinces. Et donc, nous nous occupons de la formation. L'État, par l'entremise du gouvernement provincial, s'occupe également de la gestion, mais également les communautés qui sont bénéficiaires de ces projets. Et donc, c'est dans cet esprit de synergie que ces centrales peuvent retrouver donc les bons fonctionnements ou encore être remises en bon état.
Voilà, on revient à vous, ingénieur Idriss Moufouka. Nous avons Glody Bouanganga qui est en ligne. Il s'appelle, je pense, de Bandundouville. Glody Bouanganga, bonjour.
Bonjour, monsieur Martin. Bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci pour la parole accordée. Je pense que ce projet est vraiment pertinent. Ça peut faire à ce que la vie des Congolais puisse changer. Si vous regardez dans notre pays, généralement, il y a l'exode rural qui se passe parce que les villageois préfèrent quitter leur milieu pour s'installer dans des villes. Parce que dans leur milieu, il y a certaines choses qui existent là-bas. Au niveau de la ville, ça n'existe pas. Alors moi, je voudrais juste passer directement aux questions à l'invité. Parce que vous savez sans doute, la République démocratique du Congo a généralement 26 provinces. Mais ayant suivi l'intervention de l'invité en train de baser sur l'est du pays, je ne sais pas. la première question de savoir, vous allez, on va construire combien de micro-barrages dans chaque province? Ça, c'est d'abord la première question. Et est-ce que, monsieur le député, est-ce que, avez-vous déjà cartographié de milliers que vous allez construire de micro-barrages? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, pour citer, il a dit que ce projet va recruter nécessairement des paysans, des jeunes qui manquent de l'emploi pour travailler dans ce projet-là. Alors, si vous pouvez nous aider, comment postuler? Parce que généralement, si vous faites les constats chaque année au moins, il y a des ingénieurs électriciens qui finissent, qui sont là sans emploi. Si vous pouvez directement donner les coordonnées, comme ça, ça peut aider aussi les jeunes qui nous écoutent à partir de ce moment à postuler et avoir aussi de l'emploi. C'est un peu ça ce que j'ai voulu partager pour aujourd'hui. J'ai dit et je vous remercie.
Merci, Glody Bwanganga. Ingénieur Idriss Moufouka, comment réagissez-vous?
Oui, j'ai très bien compris la question de Glody Abandonville. Il faut dire que le projet de promotion des mini et micro-centrales hydroélectriques, c'était un projet national. Et là, je voudrais préciser que nous aurons quelques activités avec ces projets. La première activité, c'est l'implantation du laboratoire moderne pour l'hydroélectricité qui sera érigée à l'INPP, et d'ailleurs les travaux ont déjà commencé. Donc ça sera le tout premier laboratoire en RDC dans ce domaine, et le quatrième au niveau de la sous-région. Et la deuxième activité, nous allons former des opérateurs de services énergétiques qui sont dans la production à petite échelle. Donc on prendra un échantillon de deux opérateurs par province et qui seront formés en efficacité énergétique. Et la troisième activité, nous allons également prendre deux personnes dans chaque province, des fabricants artisanaux sur le micro-turbine. Et la quatrième activité, nous allons former des communautés locaux sur la gestion et la maintenance des ouvrages. Glody, pour répondre également à votre question, comment ça va se passer le recrutement? Et je pense que dans tous les projets, il y a toujours ce qu'on appelle des activités, des zones pilotes. Donc, le projet ne va pas seulement s'arrêter dans la partie est du pays, mais il faut préciser que le PNUD a déjà financé quelques ouvrages dans les nord et les sud Kivu. Et par rapport à ces ouvrages, que les cordons a parlé de ça, mais ce n'est pas seulement les Nord et les Kivu, Kinshasa également, vers Menkao. Et donc, nous sommes en train de vouloir nous déployer à travers le pays. Et c'est pour cette raison que notre analyse était une analyse sur le plan national. Mais je tiens à souligner que la question de l'accès à l'énergie électrique, c'est une responsabilité à 100% de l'État congolais. Et le PNUD, l'INPP, nous venons en appui à notre gouvernement. Je pense que le gouvernement a un programme d'électrification. Et comme le président de la République l'avait dit lors de son premier congrès devant les parlements, qu'il avait dit d'ici 2030, il aimerait augmenter les taux d'accès à l'électricité jusqu'à 30%. Et donc, au stade actuel, ce qu'il faudrait retenir est que, dans le cadre de ces projets, nous allons toujours commencer quelque part. Et évidemment, le projet est ouvert pour ceux qui aimeraient nous contacter dans le cadre de ces projets. Ils peuvent passer par la radio Capi, par ces numéros. Et nous allons voir comment nous allons impliquer des jeunes. Effectivement, notre objectif, c'est de former des spécialistes. Et par rapport à ça, ce qui va faire que à chaque fois que nous allons intervenir, par exemple, lui, il est à Bandundu-Ville, et la province du Kulu fait partie des provinces qui regorgent un potentiel hydraulique énorme. Et d'ailleurs, il y a même une mission d'analyse des besoins qui va se faire dans les jours à venir dans la province du Kulu pour identifier non seulement les micro-centrales existantes, mais également les cours d'eau accessibles pour l'implantation de micro-centrales. Et il y aura également un rapport qui sera transmis à tous les prestataires étatiques dans le secteur. Je pense que les collègues Glody peut espérer, il peut nous contacter par votre canal. Nous allons voir dans quelle mesure où ensemble nous pouvons consolider les efforts et pour que cette question de la précarité énergétique soit résolue au niveau de notre pays.
Voilà, donc là c'est clair pour tous les auditeurs qui nous suivent et qui sont intéressés par ces sujets, qui aiment bien réagir, n'hésitez pas. Après les interventions des invités, si vous voulez garder contact, réagissez sur la page Facebook Okapi Service. Et il y a un autre auditeur qui est en ligne, il est également du côté de Bandundu, de Bandundu, là c'est en tout cas du côté de l'ancienne province de Bandundu, c'est Blaise qui nous appelle depuis Kikwit. Blaise, vous êtes en ligne, bonjour Blaise.
Bonjour, monsieur Thiers, hein,
c'est Marcel Ngombombala qui est à l'antenne pour le magazine Okapi Service. On vous écoute, allez-y, Blaise.
Oui, c'est Blaise Vistache dans la ville de Kikwit. Oui. Je voudrais dire ceci.
Oui.
J'ai suivi le premier invité qui est l'agent direct de PNUD. Mais maintenant, comme il est déjà parti, ça ne pose pas. Maintenant, je voudrais poser la question à monsieur, notre invité qui est sur le plateau.
Oui.
Lui, quand même, il est agent direct de l'État parce qu'il est dans l'UNPP. L'UNPP, nous connaissons, c'est une entreprise publique de l'État. Ce sont eux qui sont vraiment habilités à représenter le gouvernement. Moi, je voudrais lui poser une seule question. La première question, c'est de savoir, quand il dit on va former les spécialistes, dans quel, toujours à l'UNPP ou à l'ISTA, parce que nous avons tant d'ingénieurs électriciens qui sont formés à l'ISTA, mais ils n'ont pas d'emploi. Deuxième question, nous ici dans la province de Kouilou, nous vivons dans les noirs, donc surtout dans la ville de Kikwit, ici, là où je suis. Il n'y a pas d'électricité, vraiment là, quand il fait 18 heures, vous êtes tous dans les noirs. Maintenant, il y a déjà un projet que le gouvernement a mis beaucoup de moyens ici à Kakobo, là. Au lieu d'appuyer ce projet pour que la ville de Kikwit, Gungu et Idiopa soient éclairées, elles veulent encore venir avec d'autres petits projets. Il peut encore freiner les grands projets parce que nous connaissons bien avec nos dirigeants. Quand il y a déjà des petites histoires qui fait comme si complémentaires, on néglige ce qui est déjà à grande échelle. C'est pour cela que j'ai voulu savoir. Quand il a dit Bandundu, Kikwilu est déjà cartographié, c'est bien. Est-ce que ils vont aller jusqu'au bout ou ce sont des projets à petite courte durée, quoi? C'est ça ma préoccupation.
Merci Blaise Gustachi d'avoir appelé depuis Kikwit. Ingénieur Idrissa Mofuka, comment réagissez-vous?
Ah oui, bonjour cher ami Blaise de Kikwit. Je dois pour votre information, je maîtrise très bien la situation énergétique du Kouilou. Et d'ailleurs, le Kouilou fait partie des provinces qui présentent un taux d'accès à l'électricité très faible, je dirais même très médiocre. Et je voudrais commencer par un petit élément de précision par rapport au projet Kakobola. Le projet Kakobola, c'est un projet du gouvernement congolais en partenariat avec une structure indienne. Et je ne vais pas trop entrer en détail parce que c'est un projet qui souffre de beaucoup de problèmes. Il y a d'abord le gouvernement congolais qui n'a pas encore donné sa part de participation financière à 100%, mais également l'entreprise qui était sous-traitée pour les travaux des lignes et qui n'a pas encore aussi fini les négociations. Mais c'était un projet qui était très mal négocié au départ. Et donc, entre guillemets, il semble qu'ils avaient oublié les fonds pour les travaux des lignes. Donc, lorsqu'un projet est déjà très mal conçu dès le départ, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un projet qui souffre. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de faire, et donc ça, c'est le PNUD. Donc, le PNUD qui vient avec un autre projet. Donc, il n'est pas interdit également de diversifier les projets. Il faut dire que dans les Kouilou, il n'y a pas que Kakobola. Il y a des microcentrales, par exemple, à Massimanimba, bien que c'est privé, à Idjoufa et tout. Et donc, de nos jours, je pense que ce n'est pas mauvais pour qu'un autre partenaire vienne appuyer un autre projet. Et nous souhaitons que dans les jours à venir, le gouvernement congolais pourra se mettre en ordre pour que le projet de Kakobola soit mise en œuvre effectivement pour électrifier la ville d'Idiofa, de Bungu et de Kikwit. mais il revient également aux députés nationaux du Kulu de pouvoir remonter, démonter au créneau pour parler au Parlement pour que cette question soit résolue, mais ainsi que l'implication de la société civile. Par rapport à la question, le Congo forme des ingénieurs, je voudrais préciser une chose. Il y a l'inadéquation entre les programmes de formation universitaire avec les marchés de l'emploi au Congo. Être ingénieur ne veut pas dire qu'on est spécialiste en hydroélectricité. Donc, et la participation ou la particularité des programmes de formation de l'INPP, c'est que nous formons des spécialistes des métiers. Donc, on ne forme pas des généralistes. On forme des gens qui sont prêts à réagir ou à intervenir sur le marché de l'emploi. Et d'ailleurs, dans la plupart des formations que nous faisons, par exemple pour les techniciens installateurs de microcentrales hydroélectriques, le prérequis, il faut avoir des notions de base sur l'électricité. Et donc, nous venons appuyer tous ceux qui font l'école d'ingénieurs, que ce soit en Polytech, que ce soit à l'ISTA, ainsi de suite. Ils sont le bienvenu.
Voilà.
Le vrai problème, il faut se spécialiser. Quand vous avez des compétences spécialisées, en ces moments-là, nous allons vous devenez utile. Donc, on ne se contredit pas, mais on vient juste donner des compétences pour que les choses soient quand même claires.
Voilà,
même
merci.
Quand il est en train de parler du projet
allez-y, Takobo, allez-y rapide.
Il y a combien
allez-y rapidement, il faut qu'on arrête ça avec vous. Allez-y rapidement, votre conclusion, oui.
Oui, la conclusion, le projet de promotion des miniers microcentrales, c'est un projet très capital pour les pays, parce qu'il faut savoir que le contexte énergétique de la FDC maintenant là, et ce n'est pas d'aller sur des grands projets, parce que ça coûte en termes d'argent, en termes du temps, et même sur le plan d'impact environnemental.
Oui.
Il faut aller sur des micro-projets, que ce soit en hydroélectricité, en solaire, ou encore dans d'autres formes d'énergie renouvelable. Mais ça nécessite l'implication de tous les prestataires du secteur, et en commençant par le gouvernement congolais par l'intermise du ministère de l'énergie, de l'environnement, de l'économie, du finance, et voire même le ministère de l'urbanisme, pour qu'ensemble nous puissions quand même relever la pente, parce que sans électricité, il n'y aura jamais de développement en RDC.
Voilà. Merci beaucoup, ingénieur Idriss Moufoka. Nous rappelons que vous
c'est
êtes point focal du projet de promotion de mini et micro centrales hydroélectriques en RDC à l'Institut National de Préparation Professionnelle NPPANSIC. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.